Tu joues tout seul ce soir ? Ouais. Alors, est-ce qu'il est né ce bébé ?
Non, pas encore, mais je crois que là, c'est ça, le travail a commencé.
Ah
mais
ouais, carrément.
Il n'y a pas eu d'hospitalisation, mais en fait, on avait annoncé ça en duo parce que la date du terme était plus loin dans le mois, mais il se trouve que ça s'est accéléré et qu'en fait, là, aujourd'hui, ça a commencé là, cet après-midi.
Donc peut-être ce soir, tu auras une belle nouvelle.
Peut-être ce soir ou demain, ouais.
Bon,
après, peut-être pas, hein, parce que des fois, ça...
Ça prend du temps aussi.
Ouais, ça prend du temps et puis des fois, il y a des fausses alertes.
On sait ce que c'est. T'as déjà joué en solo, de toute façon. On a vu des super vidéos sur le cargo.
Ouais.
Comment tu fais du coup ? Tu réarranges les choses ?
Oui, c'est des versions souvent plus dépouillées que sur disque. C'est beaucoup plus dépouillé, c'est un petit peu plus calme. Alors ce soir, il y aura un final un peu plus rock que ce que je fais d'habitude en solo. Mais c'était un parti pris parce que l'antipode est quand même un petit peu plus gros que les endroits que je fais d'habitude en solo. En solo, je fais plutôt vraiment des petits lieux ou des appartements ou des galeries, des choses plus intimes. Donc c'est vrai que je privilégie un peu le côté doux de l'album, alors que là, ce soir, je vais un petit peu jongler. Ça va commencer très doux et puis ça va, sur la fin, être un petit peu plus guitare, quoi.
Ouais, et tu disais hier que tu avais samplé un petit peu Patrice aussi, tu vas utiliser.
Oui, je l'ai samplé, oui, pour utiliser justement la batterie parce que j'aime pas les sons synthétiques.
Début mars, là, tu étais à la Villa Médicis à Rome.
Ouais.
Pour une résidence, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé et tout ça ?
Oh, bah, tout simplement, déjà, en fait, on était invité par la Villa Médicis pour travailler pour nous et aussi pour travailler sur une collaboration avec un musicien romain qui s'appelle Théo Théardo, avec lequel on va jouer au mois de juin sur un festival à la Villa Médicis. Et donc l'idée, c'était qu'il y ait une petite collaboration. Bon, il se trouve qu'on n'a pas pu travailler avec lui, parce qu'il rentrait de tournée et qu'il a été hospitalisé parce qu'il avait un ulcère. Ouais, c'était un petit peu de problématique, quoi, surtout pour lui, quoi. Mais bon, nous, ça ne nous a pas empêché de travailler de notre côté et puis de découvrir cette magnifique ville.
Ouais, du coup, on a vu les photos, mais c'est assez impressionnant. Ça doit être un truc un peu prenant quand même d'être là-bas.
Ouais, c'est magnifique. C'est assez incroyable, ouais. Il y a vraiment quelque chose d'assez incroyable, ouais. Ça a bougé beaucoup de choses, ouais. C'était très beau et la ville est magnifique. Après, il y a un côté très touristique qui est quand même un petit peu étrange, quoi. Mais oui, c'est une très très belle ville. Et puis bon, la Villa Médicis, il y a une histoire. C'est quand même un truc un peu incroyable. Et d'ailleurs, c'est un truc assez historique parce que c'est la première fois que la Villa Médicis accueille des musiciens rock en résidence, quoi.
Donc, c'est une belle première.
Ouais, c'était bien. C'était plutôt agréable. Puis on a été très bien accueillis.
Alors, excuse-moi la question un peu personnelle, mais je crois que ta maman était italienne ou d'origine italienne. C'était important pour toi
C'était très surprenant que ça arrive après cet album qui est justement un petit peu autour de cette histoire-là, de sa perte et tout. Et ça m'a fait assez plaisir finalement. Bon, après, c'est un concours de circonstances et c'est du hasard, quoi. Mais ça m'a fait assez plaisir d'aller en Italie parce que je connais très peu ce pays. Et donc, du côté de ma mère, donc c'était des Italiens immigrés. Avant la Seconde Guerre mondiale, quoi. Et donc j'ai pu un peu découvrir un petit bout d'Italie à travers Rome. Je connaissais déjà un petit peu Venise et un petit peu Milan, mais vraiment très peu, quoi. Et c'était il y avait quelque chose qui était un peu important dans ce voyage, quoi, personnellement, quoi.
Alors dans une interview pour Sourd Oreiller, t'as une très jolie formule où tu disais qu'avant tu faisais de la politique extérieure. Et qu'avec ce disque-là, tu faisais de la politique intérieure, mais que ça restait politique. Est-ce que tu peux nous expliquer ?
Ça va peut-être un peu loin, mais déjà, c'était une envie de changer un peu de registre, parce que j'avais un peu l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose, au temps de la politique extérieure. Après, de la politique intérieure, le terme politique ne va pas forcément dans ce sens... de politique au sens tel qu'on l'entend, quoi. Mais c'était cette idée justement à travers l'expression de choses très personnelles, justement essayer de créer un lien avec le public et une émotion surtout, de pas être dans la récitation ou l'autocomplaisance, quoi, mais plutôt d'essayer de livrer quelque chose qui soit à la fois très personnel, un petit peu pudique aussi, mais surtout que ça puisse créer un lien avec le public, avec des gens qui écoutent ça et qui attrapent un petit peu les choses que je raconte et qui soit des gens qui partagent un peu la même expérience, soit enfin créer une émotion, un lien, quoi. Et bon, ça c'est peut-être ma définition de la politique.
Ouais, mais c'est plutôt, je pense, plutôt pas mal.
Ouais.
Pourquoi t'as choisi l'autoproduction? Enfin, c'était peut-être pas un choix d'ailleurs, mais...
Si, c'était un choix. Enfin, en fait, quand j'ai commencé ce projet, je voulais aller vite parce que les chansons étaient là, on avait déjà fait beaucoup de concerts et j'ai contacté quelques labels, mais j'ai eu des réponses qui étaient positives, mais on me disait toujours qu'il fallait attendre. Et puis, pour avoir travaillé avec beaucoup de labels ces dernières années, de labels indépendants français, finalement, je me suis dit que je pouvais aussi faire le travail que font ces labels-là, je pouvais le faire moi et en essayant d'organiser la chose. J'ai quand même travaillé avec des gens. Enfin, le disque s'est fait comme s'il y avait eu un label derrière, quoi. Et il y a des gens qui ont travaillé sur la promotion du disque, sur la pochette, sur tout ça, quoi. Mais après, c'était un fantasme que j'avais depuis plusieurs années parce que j'ai quand même eu pas mal de soucis avec mes précédents labels. Et puis aussi, une envie d'aller jusqu'au bout du truc. Je trouvais que ça collait bien aussi avec cet album qui était finalement un truc plus personnel et d'aller vers... d'être en contact direct aussi avec les gens pour vendre mon disque, quoi. Et je trouve qu'aujourd'hui, finalement, c'est quelque chose... Pour moi, c'est un peu aller jusqu'au bout d'une certaine démarche. Et puis aussi, finalement, quand on entend tout ce discours d'artistes qui se plaignent, de gens qui n'achètent plus d'albums et tout ça... C'est souvent des gens qui sont sur des labels et souvent même des gens qui sont sur des gros labels, finalement, qu'on entend se plaindre. Et moi, mon discours là-dessus est beaucoup plus simple que ça. C'est effectivement, c'est pas facile de vivre en tant qu'artiste, surtout quand on a des choix assez tranchés. Mais en même temps, voilà, mon discours est simple. Moi, le disque, c'est moi qui ai produit mon disque, j'ai payé mon disque. Donc, si t'achètes mon disque, tu m'aides à rembourser mes dettes. Et si au moment où j'aurai remboursé mes dettes, je gagnerai peut-être un peu d'argent avec ça. Et puis voilà. Et du coup, je trouve ça met un rapport beaucoup plus sain. Et je suis pas en train de faire la morale pour dire faut pas télécharger, c'est mal. Non, je dis juste ma musique, c'est moi qui l'a produit. Voilà, si tu veux acheter mon disque, tu participes. Ça, c'est un acte politique aussi, quelque part.
Finalement,
et ouais. Je trouve ça plus légitime, finalement, que de faire la pleureuse à la télé en étant signé sur une major ou sur un gros label, en faisant la morale à tout le monde, quoi.
Alors, tu as fait un petit journal de la résidence quand tu étais à Rome. Et tu dis que petit à petit, donc il y a une chanson que tu dois plus particulièrement faire, et puis qu'il y a d'autres choses qui prennent forme petit à petit. Et tu finis en disant il reste plus qu'à attendre les mots. Alors en fait, comment ça s'articule? Tu as d'abord la musique, d'abord les textes?
Non, il n'y a pas de règle.
Il n'y a pas de règle.
Il y a des fois une phrase qui donne naissance à un texte et puis qui se colle sur une musique qui était déjà là. C'est souvent quand même quelques parties musicales qui m'inspirent et que je raccroche à des choses que j'ai déjà écrites. Après, j'ai un processus assez long où je note des idées sur des carnets, je note des bouts de phrases, et puis un jour, ça vient tout seul, quoi. Donc les mots, ouais, il faut les attendre. Je dis surtout ça parce que avant, je me forçais un petit peu à être productif, et aujourd'hui, pas du tout, en fait, quoi. J'essaie juste de faire marcher... La machine, et puis d'emmagasiner des choses, et puis après, à un moment donné, ça vient tout seul, quoi. Mais après, il n'y a pas vraiment de règles bien bien précises, quoi. C'est assez bordélique comme travail.
Parce que tu vois, par exemple, sur l'enfant, à un moment, tu dis des mots super simples, je vide des boîtes, et là, il y a une sorte de tension, ça te prend le ventre quand même. Voilà, comment ça s'est articulé, par exemple, ce moment-là?
Cette chanson, c'est très simple, hein. c'est des souvenirs d'enfance, quoi. Des souvenirs d'enfance très personnels. Je vide des boîtes, j'ai un souvenir étant enfant, vraiment petit. Je jouais chez moi et j'avais des boîtes avec des jeux dedans et je vidais les boîtes. et je vidais les boîtes. Et puis je les remplissais à nouveau, et puis je les revidais encore. Et ça, c'est quand on est petit, on fait ça. Moi, mes enfants ont fait ça aussi. Voilà, c'est un truc de gosse, mais ouais, c'est juste.
Voilà, et pourquoi il y a ce moment-là où ça, enfin, la musique, ça commence à bien en prendre là.
Ouais, tu vois, ouais.
Une espèce de montée. Ça tombe comme ça.
C'est un peu obsessionnel, hein. C'est un petit peu obsessionnel ce genre de truc chez les gamins, quoi. Après, je saurais pas expliquer, franchement. Il y a peut-être quelque chose derrière, mais après, c'est un peu à chacun d'y voir ce qu'il a envie d'y voir. Je sais pas, je saurais pas expliquer. Il y a ce que je disais tout à l'heure dans.
Miguel, des bois qui.
Voilà, disent. Voilà. Je cherche pas forcément à donner des interprétations à tout parce que c'est ennuyeux, en fait. C'est ennuyeux. En plus, on est vraiment dans une époque où. Il faut tout savoir, tout voir, être au courant de tout, tout expliquer, tout interpréter, tout surinterpréter. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me désole. Et je pense que l'art, c'est un peu la dernière place. Alors l'art, à travers la musique, à travers le cinéma, à travers tout un tas de choses, toutes les disciplines confondues. Mais c'est un des derniers bastions, justement, de cette liberté de pas toujours... expliquer ou interpréter les choses, quoi. C'est pas du tout fait pour ça, l'art, quoi. Enfin, c'est fait pour lâcher des choses, pour lâcher des émotions, et voilà, il n'y a pas forcément à interpréter. Et franchement, il y a plein de choses, je suis totalement incapable de dire pourquoi je fais ça comme ça ou pourquoi je dis ça, même, hein. Il y a des choses que je peux expliquer, il y en a d'autres. Je sais pas quoi te dire.
Bon, alors, je vais avoir du mal à poser la suivante, du coup.
Vas-y.
sur le dernier album, donc il y a deux chansons, tu dis qui sont pas, enfin qui sont fictionnelles, et les autres sont plutôt du vécu.
Ouais.
La dernière qui finit sur un happy end, t'as expliqué dans d'autres interviews pourquoi. Et il y a le cercle parfait.
Ouais.
Comment t'as eu l'idée de rajouter ce moment-là dans cette histoire, cette scène au film, en fait?
C'est quelque chose de très personnel, en fait. Le cercle parfait, c'est à un moment donné de ma vie, c'est un voyage avec quelqu'un, et c'est se rendre compte que on a fait le tour d'une ville, mais en vrai, par rapport à tous les endroits dans lesquels on avait vécu. Et puis à un moment donné où justement on rentre dans une phase, une nouvelle phase. C'est un peu refaire le tour de tout ce qu'on a vécu ensemble, et puis se reposer un petit peu avant de repartir, quoi. C'est tout, c'est un voyage. Après, c'est vraiment une chanson que j'aurais du mal aussi à expliquer. Je le ferai pas parce que j'aime pas ça, mais c'est une chanson que j'aurais du mal à expliquer parce que c'est quelque chose d'assez. Même moi, je sais même pas. Je comprends pas tout.
En même temps, elle s'explique aussi toute seule.
Je comprends pas tout, mais c'est drôle parce que c'est une chanson qui a été souvent interprétée comme une chanson de rupture, alors que c'est pas du tout une chanson de rupture, quoi. Bien au contraire. C'est ce que j'aime avec ça aussi. C'est ce que j'aime. C'est l'idée qu'on puisse rattraper cette histoire, et finalement, c'est pour ça que je m'en suis un peu voulu aussi à un moment donné d'avoir trop expliqué pourquoi ce disque et. Ce que j'aime bien l'idée, enfin, perdre quelqu'un, il y a plusieurs manières de perdre quelqu'un, il n'y a pas forcément la mort au milieu, quoi. Il y a aussi juste une perte, et le propos au départ, c'était un peu ça, quoi. C'était plus la perte que vraiment la séparation à travers la mort et tout ça, quoi. Même si ça fait partie du truc, quoi, mais j'aime bien cette idée-là, puis finalement c'est un peu la même chose, perdre quelqu'un, c'est perdre quelqu'un, quoi, qui disparaisse ou qui s'en aille, qui soit toujours là mais plus là, c'est un peu la même chose, quoi.
Alors, enfin, tu racontes des histoires dans tes chansons. Je trouve que c'est super dur, en fait, comme exercice, pour que ça ait de l'épaisseur et que ça veuille dire quelque chose. Et ce qui me frappe surtout, c'est que tu as des super petits détails. Enfin, dans l'enfant, tu dis une allumette dans une casserole en émail orange et on la voit, quoi. Ou sur de la neige en été, les quatre blousons avec le foot. Voilà, ça y est. C'est un truc auquel tu fais attention ?
Non. Franchement, ça vient tout seul.
Ça vient tout seul.
Non, mais je fais un pauvre commentateur de ce que je fais. Hein. C'est vraiment. Il y a beaucoup de choses qui me dépassent et que j'analyse pas forcément. Juste. Les images me plaisent ou les sonorités me plaisent. Après, il y a vraiment juste un souci de simplicité. C'est vrai que plus ça va et plus J'ai vraiment envie de dire les choses d'une manière vraiment simple, quoi. J'aime beaucoup ça. C'est ce que j'aime en littérature aussi. J'aime vraiment la simplicité de... J'aime ça, quoi. C'est
voilà. Pour ça aussi, la formule duo, j'imagine que ça partait...
Ça partait aussi sur cette idée-là d'intimité, de proximité, de simplicité, de livrer quelque chose d'assez brut et d'assez direct, et justement dans une formule vraiment épurée musicalement, quoi. Ça allait, tout allait dans le même sens, quoi, en fait.
Justement, tu as composé avec une guitare baritone, un truc que tu faisais pas avant. Et pourquoi tu as choisi ça, en fait?
Bah, parce que j'avais envie de changer, parce que j'avais cette guitare et j'avais envie d'essayer ça, et puis ça permettait aussi, à travers les fréquences beaucoup plus graves qu'une guitare normale, en étant juste en duo, d'avoir quelque chose de plus charnu au niveau du son. J'avais un accordage différent qu'une guitare classique, donc du coup ça a ouvert des portes, et à un moment donné ça m'a permis aussi de rebondir sur un peu quelque chose d'un peu différent. C'était agréable, quoi.
Écoute d'autres trucs où ils sont vraiment tout seuls ou très simples, enfin des gens qui sont seuls avec leur guitare ou...
J'écoute tout, plein de choses. Alors, franchement, j'ai pas de... J'écoute beaucoup de choses, ouais. Je suis pas bloqué sur une seule forme, ouais.
Bon, alors, on a l'habitude, parce que voilà, on connaît bien Diablo Gomme, on connaît bien Expérience, on te pose plus la question, mais pourquoi t'as choisi cette sorte de spoken word?
C'est un truc qui s'est imposé à l'époque de Numéro 3, beaucoup, avec Arnaud... On est vraiment parti dans cette voie-là. Moi, j'ai essayé de développer quand même un truc un peu plus mélodique, et je pense que plus ça va aller, plus je vais essayer d'aller vers ça. Parce que c'est vrai que ça a un petit peu ses limites aussi, le spoken word, même si ça va rester... je ne vais pas non plus partir à l'opposé, mais j'essaie de plus en plus... Avec cet album, par exemple, j'ai beaucoup plus chanté que sur mes précédents disques. Et ça a été vraiment un plaisir, en fait. C'est vraiment un plaisir de retrouver un petit peu ça. Et je ne vais pas partir à l'opposé, hein, mais bon, c'est vrai que plus ça va, plus j'ai envie de chanter des chansons. Ouais. Enfin, dans une certaine mesure, avec mes capacités vocales.
On s'est dit que tu avais un peu réécouté Slint et toute la clique de Louisville cet
album-là. Pas vraiment pour cet album, mais c'est vrai que c'est à un moment donné, je me suis un peu replongé là-dedans, et ça faisait écho avec tout un tas de choses que j'écoutais beaucoup à ce moment-là, et que j'écoute beaucoup d'ailleurs, depuis pas mal d'années. Des gens comme Bill Callahan, des gens comme Scoot Niblett, tout un tas d'artistes qui sont un peu... qui sont des songwriters, mais qui sont un peu, pour moi... une espèce de continuité de ce qui a été commencé avec ce post-rock des années 90.
J'ai pas écrit la question, mais il y a un groupe qui s'appelle Mansfieldia, que tu connais peut-être.
Je connais de nom, je connais pas la musique.
Elle chante en français. À un moment, elle chantait plus en anglais, et puis il y a eu un passage où elles se sont dit on veut aller vers le français, et elles se sont dit en français on sonne variété, et elles ont cherché quoi écouter pour pouvoir chanter, et finalement elles se sont tournées vers le hip-hop.
Ça a été un peu notre démarche aussi à l'époque de Diablo Gomme. Moi, je t'avouerai que franchement, plus aujourd'hui, parce que franchement il y a très peu de choses dans le hip-hop français qui m'intéressent, pour être honnête.
Kazé,
certains trucs de Kazé, Psychic, Lyrica, quelques trucs comme ça un petit peu un petit peu hybride, quoi. Mais c'est vrai que le hip-hop français classique, je peux plus écouter ça, quoi. Enfin, ce qui se fait actuellement, quoi. Mais par contre, à l'époque, effectivement, moi, à l'époque du Diablo Gomme, on a été beaucoup plus marqué par le hip-hop français des années, fin des années 80 et années 90, que par le rock français. Parce qu'ils se chantaient en français dans leur rock, vraiment rock, quoi. Ça nous a beaucoup plus... C'est peut-être pour ça aussi le côté un petit peu... on a un peu délaissé la mélodie au profit du côté un peu spoken word et tout ça, quoi. Parce que c'est vrai que moi, j'ai vraiment une culture anglo-saxonne à la base, musicalement, dans mes goûts. Et c'est vrai que j'écoutais pas forcément... Alors, c'est paradoxal pour un mec qui a toujours écrit des chansons en français, quoi, mais j'écoute pas forcément des tonnes de musique française, quoi. Et même tout ce qui est chansons françaises et tout, je connais quelques trucs, mais c'est vraiment pas ce que j'écoute, en fait. Et c'est vrai que je trouvais que finalement, le hip-hop français à ses débuts, plus maintenant, mais à ses débuts finalement s'approprier ce style anglo-saxon d'une manière beaucoup plus percutante et réussie que le rock français, quoi.
Et
après, moi, je parle du rock français des années 80, enfin, vraiment des choses que moi, je, que même aujourd'hui, je ne peux pas supporter.
Non, on est d'accord. Je pense voir à peu près. Alors, ma question préférée, qui n'est pas facile, mais trois disques sans lesquels tu pourrais pas vivre.
Il y en a tellement plus.
Je sais, c'est pour ça que c'est dur.
Ouais. Là, qui me viennent en tête, là, comme ça. Il y a forcément un album de Sonic Youth. Je sais pas lequel. Ça pourrait être Sister, Daydream Nation. Ça pourrait être Dirty. N'importe quel album de Sonic Youth jusqu'à la fin des années 90, même milieu des années 90. Après, en deuxième, il y aurait, je pense, un album de Neil Young aussi, je pense. Je sais pas trop lequel, un des premiers. Il y a pas trop, j'ai pas trop d'échelle de valeur dans ces premiers disques. Et puis, un truc de maintenant, je pense qu'il y aurait un disque de Bill Callahan. Ouais, peut-être son deuxième ou son troisième album solo. Et voilà, mais après, c'est vachement réducteur.
T'as le droit d'en rajouter si tu veux.
Ouais, il y en a tellement, quoi, dans plein de registres musicaux différents. Il y aurait un album de Soul, il y aurait un disque des Beatles, il y aurait un disque du Velvet, il y aurait... Il y aurait... Il y en a tellement.
Merci beaucoup.
Il faudrait plutôt me poser qu'est-ce que tu mettrais dans ton iPod
ouais, maintenant, c'est ça.
Avec un disque dur de 150 gigas.
Bah, écoute, si un jour tu veux nous l'écrire, il n'y a pas de problème.
Ouf, ça risque d'être un peu long. Je ferai des shoots d'écran d'iTunes.
Ça marche. T'as été inspiré par le cinéma, je pense, un petit peu.
Oui, beaucoup, ouais.
Quand vous avez joué avec Diabologum à Vendôme, il y a ouais. Françoise Lebrun qui est venue sur scène. Tu peux ouais. nous parler de ce moment-là ?
Ah, ça a été un moment assez incroyable. C'est elle qui nous a contactés par l'intermédiaire d'un ami commun. Elle savait qu'on rejouait. Elle se doutait qu'il n'y aurait sans doute pas beaucoup de concerts derrière. Enfin, elle en avait entendu parler. Et c'est elle qui nous a contactés par l'intermédiaire d'un ami qu'on a en commun et, pour nous dire « Hey, ça m'intéresserait d'essayer quelque chose avec vous. » Donc nous, on n'y croyait pas trop au début. Puis en fait, on s'est contactés. Et elle est venue la veille du concert. On s'est rencontrés. Naturellement, ça s'est fait très naturellement. On a répété le truc deux fois sans trop savoir ce qu'on allait faire. On a juste continué à jouer à la fin de la bande de son du film. Elle est intervenue. Elle avait préparé une espèce de partie du monologue, quoi. Et on a fait ça, et c'était super tout de suite, et voilà, et après le lendemain, on s'est retrouvés sur scène, et ça a été vraiment énorme, quoi. Et puis après, ça a été une rencontre aussi humainement vraiment énorme, quoi. C'est quelqu'un d'assez exceptionnel, ouais.
C'est un truc que, alors je sais pas si t'as déjà fait, mais que t'aimerais faire, toi, écrire de la musique pour le cinéma ?
C'est ce que je fais ça pas mal, mais c'est pas des projets qui sont très médiatisés. Je travaille en fait avec une artiste vidéo. On a fait plusieurs films sur lesquels j'ai même écrit du texte. Là, il y a une espèce de compile DVD de ces films qui va sortir, dans lesquels il y a quelques trucs sur lesquels j'ai bossé. C'est une amie toulousaine qui est artiste, photographe et vidéaste, quoi. Et on a souvent travaillé ensemble. Là, on va retravailler sur des performances aussi. Elle s'occupe d'images et moi, des images et moi je fais du son. On inclut parfois du texte, soit elle qui écrit, soit moi. Et ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble. On a fait pas mal d'expos, on a fait pas mal, mais vraiment dans un registre plus art contemporain, quoi. On a fait des résidences ensemble, on a fait pas mal de choses, ouais. Elle s'appelle Béatrice Utria.
D'accord, donc oui, effectivement, on la voit sur...
On s'est rencontrés à l'époque du numéro 3, on lui a piqué une de ses photos, on lui a piqué avec son autorisation, mais on lui a piqué une de ses photos pour faire la pochette du numéro 3. Et du coup, on s'est rencontrés à ce moment-là, on est devenus amis et on a commencé à travailler ensemble quelques temps après, quoi, quelques années après, quoi.
Pour finir, question très simple, mais d'autres projets, d'autres après cette date-là
Beaucoup de concerts jusqu'à cet été, en fait. On a pas mal de concerts, on va un peu voyager. Des dates en France, en Suisse, en Belgique, un autre concert là à Rome, donc. Une petite pause pendant l'été, parce que on n'a pas de date cet été, et puis le projet se prête pas vraiment au festival d'été, quoi.
Des bébés.
Ouais, c'est ça. Il y a des enfants à élever. Et puis un peu de repos aussi, parce qu'on n'a pas arrêté depuis la fin de l'année dernière. Et puis on reprend à la rentrée avec des concerts jusqu'à la fin de l'année. Peut-être un peu moins que jusqu'à maintenant, mais quand même quelques dates. On va faire une tournée en Espagne et tout ça. Et puis après, là, parallèlement à ça, moi, je suis en train d'essayer. Non, je suis pas en train d'essayer. Je suis en train d'écrire des chansons. Voilà, pour un nouvel album. Je sais pas trop quand est-ce que ça va sortir. L'année prochaine, probablement. Voilà, ça avance. C'est tranquillement. C'est en train de... Là, on en est un peu au débroussaillage. Voilà, ça, tranquillement, ça va avancer en parallèle à tous ces concerts-là, quoi. Et après, d'autres projets personnels, oui, avec cette artiste, la Béatrice, on a des projets de performance et tout ça. On doit retravailler sur de l'image ensemble. Il y a un truc que j'avais enregistré aussi il y a quelques années avec Pascal Boazis de Mendelssohn. On a enregistré des chansons, enfin, c'est pas tout à fait des chansons d'ailleurs, mais on a enregistré de la musique et du texte ensemble l'an dernier, et ça devrait enfin sortir là.
J'ai bossé avec eux sur le troisième, deuxième album, je sais plus de combien.
J'avais bossé sur quelque part, ouais, le deuxième album. J'avais été sur le mixage et puis sur le partie un petit peu de débroussaillage des pistes audio et mixage de l'album. Et Pascal, c'est un vieil ami, parce qu'on était sur Lithium ensemble et on s'entend bien. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup déjà en tant qu'artiste, et puis humainement, c'est vraiment quelqu'un de très très bien. Donc on a travaillé ensemble l'an dernier, ouais, pour deux titres, pour un disque qui sort dans un catalogue d'exposition, mais je pense que les titres sont disponibles gratuitement sur internet, quoi. Mais donc ça va sortir d'ici peu. Puis d'autres projets, non, pour l'instant. Là j'ai un peu coupé toutes les participations, enfin tous les projets que j'avais avant, les précédents groupes et tout. J'ai envie de me concentrer sur mon truc, quoi. Enfin, j'arrête de m'éparpiller un peu.
Merci beaucoup.
Merci à vous.